Voici le texte optimisé pour une lecture audio via un moteur TTS comme HTTS avec une voix française. Cours du docteur Ali Ougoulou, professeur à l'Institut supérieur des sciences agronomiques de l'AI, Tchad. Chapitre 1. Les composantes climatiques. 1. Les pluies. Elles peuvent être considérées soit par la pluviométrie, qui représente la quantité totale d'eau tombée pendant une période donnée, soit par la pluviosité, qui représente la répartition dans le temps des pluies. En Afrique sahélienne, on note une saison de pluie, de mai à octobre, contre au moins deux saisons de pluie pour les régions équatoriales. Au-delà de la pluviométrie annuelle, qui est elle-même très fluctuante d'une année sur l'autre, on exploite surtout les moyens interannuels, intermensuels ou même interdécadaires. Ces moyennes sont d'autant plus exploitables dans des simulations statistiques que l'on dispose de données sur de nombreuses années. Ainsi, pour l'AI, on dispose actuellement de données pluviométriques sur plus de 50 ans, la station météorologique de l'AI ayant plus de 50 ans. Pour les nouvelles stations, la fiabilité d'exploitation des résultats augmentera avec l'âge de la station. À la pluviométrie annuelle. La moyenne annuelle des pluies est une donnée essentielle utilisée par les agronomes pour caractériser le régime hydrique d'une région donnée. Elle est cependant de plus en plus contestée, mais demeure importante pour la comparaison de différentes stations météorologiques. Exemple. Pour l'AI, la pluviométrie P est égale à 850 mm. On dispose ainsi pour toutes les régions de carte sur lesquelles sont tracées des lignes d'égale quantité de pluie, ou isoyettes. Celles-ci sont généralement annuelles, mais elles peuvent être tracées pour des périodes encore plus courtes. En examinant de près les isoyettes de la région ouest africaine, on constate qu'elles sont très rapprochées sur la côte, 300 mm sur 100 km, alors qu'au centre elles sont plus écartées, 150 mm sur 100 km. Cette tendance s'explique par l'effet induit par la proximité de la mer sur la côte. D'une manière générale, les isoyettes ont tendance à être parallèles à l'équateur, ce qui explique le fait qu'à la même longueur de saison pluvieuse correspondent des longueurs de jours différentes. Ainsi, à l'ouest du Sénégal, l'isoyette 600 mm correspond à une variation annuelle de la longueur du jour de 100 minutes, alors qu'au Tchad, cette variation n'est que de 70 minutes pour la même isoyette. Ces différences ont un effet très important sur la croissance et surtout sur le développement des plantes dites photosensibles, qui représentent la plupart des espèces végétales. Description des isoyettes en Afrique de l'Ouest. B. Pluviométrie pour des périodes inférieures à un an. La pluviométrie annuelle ne fournissant pas tous les renseignements utiles au choix d'un calendrier agricole, compte tenu des incertitudes de la répartition des pluies, on fait recours à des données telles que la pluviométrie mensuelle et surtout décadaire.
Pluviometry mensuelle.
Elle permet une étude beaucoup plus fine que la pluviométrie annuelle et se prête aussi à l'établissement d'isoyettes. Exemple pour Bamako, on a en millimètres. Mai 55, juin 151, juillet 239, août 315, septembre 234, octobre 69. D'une manière générale, la pluviométrie mensuelle suit une courbe en cloche, reflet de la loi de Gauss.
Pluviometry, décadaire.
Il est encore d'un intérêt beaucoup plus grand pour l'agronome de connaître les variations pluviométriques décadaires au cours des années. Exemple pour l'AI, la répartition est la suivante en millimètres. Mai, première décade 14, deuxième décade 18, troisième décade 23, total mensuel 55.
Juin,
première décade 53, deuxième décade 47, troisième décade 51, total mensuel 151. Juillet, première décade 69, deuxième décade 71, troisième décade 99, total mensuel 239. Août, première décade 93, deuxième décade 107, troisième décade 115, total mensuel 315. Septembre, première décade 103, deuxième décade 80, troisième décade 51, total mensuel 234. Octobre, première décade 40, deuxième décade 17, troisième décade 12, total mensuel 69. Pour Cathy Bougou sur 31 ans, la pluviométrie de la première décade du mois de mai a été la suivante en millimètres par ordre décroissant. 77,3, 42,6, 31,1, 28,3, 28,0, 24,9, 19,4, 19,2, 14,8, 14,5, 12,8, 12,7, 12,0, 12,0, 7,2, 5,5, 4,2, 2,5, 2,0, 0,1, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0. C'est utilisation des données pluviométriques. Les relevés pluviométriques peuvent faire l'objet de traitements statistiques orientant le choix des différentes étapes d'un calendrier agricole présentant le plus de chances de réussite. Le problème fondamental réside pour l'agronome dans le caractère aléatoire et très irrégulier des chutes de pluie. Aussi, un cadrage du calendrier agricole allant de la méthode empirique à la méthode rationnelle, statistique, s'impose pour plus de réussite. Ainsi, pour la pluviométrie annuelle, on définit la variabilité par le calcul de la variance, sigma au carré, égale à la somme de x-x bar au carré, divisé par nx est une valeur de la pluviométrie, x bar est la moyenne des xi, n est le nombre des xi. Pour évaluer la variabilité pluviométrique d'une station, on calcule le coefficient de variation, cv, égal à sigma divisé par x bar, multiplié par 100. Si le coefficient est faible, la variabilité autour de la moyenne est faible. L'utilisation des données des cadres permet de calculer les fréquences de dépassement d'une éventualité afin de mesurer son impact sur le calendrier agricole. Si nous considérons les données pluviométriques sur 31 ans de Katibougou, on a enregistré 11 années sur 31 où la pluviométrie est égale à 0,0 mm pendant la première décade du mois de mai. Ceci peut guider dans le choix des dates de labour, l'irrigation des parcelles, les préparations annexes du sol, les semis. On peut aussi utiliser ces données statistiques pour prévenir, par une irrigation, les périodes sèches plus ou moins longues pouvant compromettre les rendements, ou même pour décider de l'opportunité d'un traitement phytosanitaire, herbicide ou insecticide.
Dos, la temperatura.
L'action de la température peut se situer soit au niveau des seuils de végétation, soit au niveau de la croissance. En effet, en dessous de certaines températures, certaines plantes ne germeraient plus, d'où le seuil de germination pour ces espèces. Exemple, 13 degrés Celsius pour le riz. Par ailleurs, des températures trop élevées ou trop basses peuvent retarder la croissance, voire même la bloquer, soit par accélération des phénomènes de respiration, soit par ralentissement des processus de migration. L'oscillation des températures nocturnes et diurnes revêt une importance capitale pour assurer un développement normal des plantes. Ainsi, les températures nocturnes doivent être notablement plus basses que les températures diurnes pour assurer une accumulation remarquable le jour et une migration conséquente la nuit. D'une manière générale, les plantes tropicales sont plus exigeantes en chaleur que les autres plantes. Toutefois, pour chaque espèce, on connaît des optimums de température favorables à une meilleure croissance de la plante. Rarement considérés comme facteurs limitants dans les pays sahéliens, les températures constituent souvent un facteur limitant dans les pays froids de l'hémisphère nord où elles sont trop basses le jour, ou même en Afrique équatoriale caractérisée par une faible amplitude thermique peu favorable à une croissance convenable des végétaux. 3. La lumière. Elle constitue rarement un facteur limitant en agriculture, mais l'altération de sa qualité par des nuages ou des brumes peut limiter l'intensité de l'activité photosynthétique. En effet, c'est elle qui fournit l'énergie captée par la chlorophylle et assurant les différentes synthèses organiques. Une de ses actions les plus remarquables concerne la mise à fleur des espèces ou variétés dites photopériodiques, réaction que possèdent la plupart des espèces végétales dans le monde. En effet, pour ces espèces, la mise à fleur n'est effectuée que si la durée de la longueur du jour reste dans certaines limites, limites qui changent selon les espèces ou même selon les variétés pour une même espèce. 4. Les vents et l'hygrométrie. Les vents agissent sur la consommation en eau, l'averse, l'égrenage et l'avortement des fleurs. L'hygrométrie, si elle est trop élevée, peut favoriser le développement de maladies cryptogamiques. Trop basse, elle peut engendrer des avortements ou même l'échaudage. Nous pouvons conclure en disant que les différents facteurs climatiques agissent conjointement pour régulariser les échanges entre la plante et son environnement, qu'on peut ainsi schématiser plante, atmosphère qui détermine la photosynthèse, plante, sol qui détermine la consommation en eau et en éléments minéraux. Chapitre 2. Les climats africains.
1. Generalites.
Le continent africain, situé entre le 34e degré de latitude nord et le 34e degré de latitude sud, est compris pour sa plus grande partie en zone intertropicale. Son climat est étroitement lié au déplacement apparent du soleil entre les deux tropiques et fonction des régimes des zones de basse pression équatoriale et des zones de haute pression subtropicale. Ceci engendre un découpage presque parallèle des différentes zones climatiques par rapport à l'équateur en Afrique de l'Ouest. Ailleurs, cette observation est moins réelle. S'il est vrai que le facteur latitude joue un rôle prépondérant dans la formation des types de climat, il est non moins vrai que la proximité des mers ou de cours d'eau, l'orientation des côtes, les reliefs, l'existence de courants froids ou chauds soit d'un intérêt particulier. Les régions de basse pression se situent en zone équatoriale et comprises entre le 3e degré de latitude sud et le 5e degré de latitude nord, mais aussi en latitude en fonction de la révolution de la Terre autour du Soleil. Ainsi, La zone équatoriale est caractérisée par des pluies abondantes, fréquentes, et une humidité atmosphérique importante due au courant ascendant qui refroidissent l'air et le rapproche de la saturation. Les zones de haute pression se situent vers les latitudes 30 degrés nord, anticyclone de Libye, et sud, anticyclone de Kalahari et de Sainte-Hélène. La saison des pluies est déterminée par la rencontre des masses d'air tropical sec, haute pression, et des masses d'air équatorial humide, basse pression. Au contact des deux courants d'air, il y a remontée, puis condensation, et enfin pluie. La zone où s'effectue cette rencontre se déplace avec la révolution de la Terre et a reçu le nom de FIT, front intertropical. Il existe ainsi un FIT nord et un FIT sud. Le premier se déplace vers le nord entre le 21 mars et le 21 juin, puis vers le sud entre le 21 juin et le 21 septembre. Le second se déplace vers le sud entre le 21 septembre et le 21 décembre, puis vers le nord entre le 21 décembre et le 21 mars. Dans les deux cas, son passage annonce la saison des pluies. 2. Le climat ouest-africain. En Afrique occidentale tropicale, c'est le passage du FIT qui déclenche la saison des pluies. Il se déplace entre le 25e degré de latitude nord, juillet-août, et le 5e degré de latitude nord, janvier-février. Sa naissance résulte de la rencontre entre l'anticyclone de Libye, chaud et sec, l'anticyclone des Açores, humide, chaud ou froid selon les saisons, et l'anticyclone de Sainte-Hélène, chaud et humide. Description du déplacement du FIT en Afrique de l'Ouest. La préparation du sol contribue pour beaucoup à l'obtention de bonnes récoltes. Elle permet d'améliorer la structure du sol, de créer des régimes d'aération hydrique et thermique favorables, de régler positivement la décomposition de la matière organique et le cycle des substances minérales pour améliorer la nutrition des plantes. Elle permet d'enfouir à la profondeur voulue les résidus de récolte ou de végétaux et la fumure, de protéger les cultures contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes. Elle permet d'aplanir le sol et de former des billons à sa surface et de le protéger de l'érosion. Enfin, elle permet de créer des conditions propices à une bonne germination des semences. Ainsi, on comprend que la nature du travail à effectuer dépendra d'abord des propriétés physiques du sol. Les besoins en eau des cultures. Les besoins en eau des cultures doivent tenir compte essentiellement du climat, du sol et de la plante. On peut ajouter à ces critères d'autres tels que la fertilité du sol, les méthodes et pratiques culturales. Dans le cas de la mise en place d'un projet d'irrigation, il est important de procéder au préalable à une étude aussi précise que possible permettant la rentabilité des investissements et l'alimentation exacte en eau, sans déficit ni excès pour les cultures. Dans d'autres cas, on se limite à faire coïncider le cycle de développement des cultures avec la saison pluvieuse. Enfin, souvent, on procède à une intégration des deux méthodes précédentes. L'établissement d'un bilan hydrique complet assurant un meilleur développement des plantes, prélude d'un meilleur rendement, peut être résumé en un équilibre total entre les différentes recettes en eau et les différentes pertes pour les cultures. L'équation générale peut s'écrire P plus I plus ou moins des R plus ou moins R plus ou moins des H moins TR est égal à zéro. Et P est la pluviométrie, I est l'irrigation, des R est le drainage ou la remontée capillaire, R est le ruissellement, DH est la variation de l'humidité du sol, ETR est l'évapotranspiration réelle. L'analyse du bilan hydrique montre que certains facteurs sont sous la dépendance directe du climat, ETR, PI. D'autres dépendent du sol, R, DR, DH, I. D'autres enfin de la plante, ETR, I chapitre 3. Facteurs liés au climat. Les phénomènes de perte d'eau à la surface de la Terre sont dus à des processus énergétiques. Aussi, acceptons que les facteurs climatiques soient responsables des pertes en eau par le sol et les plantes. Les disponibilités énergétiques représentent une demande, tandis que l'eau contenue dans le sol et la plante constitue une offre. On appelle ainsi évapotranspiration la quantité d'eau totale évaporée par le sol et transpirée par la plante. La première n'étant importante que dans le cas d'un couvert végétal discontinu. L'évapotranspiration est un phénomène consommateur d'énergie, assurant le passage de l'eau de la phase liquide à la phase gazeuse. Un gramme d'eau évaporée consomme 590 calories, soit 59 calories par centimètre carré pour évaporer un millimètre d'eau. Pour évaluer l'évapotranspiration, on utilise des méthodes basées sur des variables climatiques, car la mesure directe sur le terrain, bien que possible, rencontre quelques difficultés d'exécution. Pour remédier à l'effet restrictif que les différences climatiques ont sur l'exactitude des formules de prévision, on a expérimenté quatre formules largement utilisées, en les confrontant aux données mesurées de l'évapotranspiration dans différentes zones géographiques et sous des climats différents. L'approche suivie met en relation l'ampleur et la variation de l'évapotranspiration avec un ou plusieurs facteurs climatiques, longueur du jour, température, vent, humidité, insolation. 1. L'évapotranspiration potentielle, ETP dans des conditions climatiques données, elle représente la valeur maximale possible de l'évapotranspiration. Par définition, l'évapotranspiration potentielle représente l'évapotranspiration d'un couvert végétal bas, gazon de 8 à 15 cm, vert, poussant activement, homogène et continu, ne manquant pas d'eau et qui n'est soumis à aucun facteur limitant d'ordre physiologique, nutritionnel ou pathologique. Le bac Colorado. C'est un bac enterré fournissant une meilleure estimation de l'ETP que le bac A. Fait de fer galvanisé de 100 cm de côté pour 50 cm de profondeur. L'eau est maintenue dans le bac soit au niveau du sol, soit légèrement en dessous. Il est très souvent utilisé en Afrique. 2. L'évapotranspiration maximale. ET monsieur, c'est la valeur maximale de l'évapotranspiration d'une culture donnée à un stade végétatif donné. On comprend donc que la valeur de TM soit fonction du stade de développement d'une part et des conditions climatiques d'autre part. Théoriquement faible pour les stades de développement précoce de la plante, ETM croît avec l'âge de la plante. Sa valeur est théoriquement inférieure ou égale à celle calculée de TP cependant, exceptionnellement, pour certaines cultures hôtes, maïs, canne à sucre, bananier, on peut trouver des valeurs de TM supérieures à ETP mesurées ou calculées. On a ETM au stade est égal à K au stade multiplié par ETP en millimètres. K dépend de la culture, espèce ou même variété, et de son stade de développement. Si K est maximum, K est égal à 1, ETM au stade est égal à ETP sinon, ETM est inférieur ou égal à ETP ainsi, on a 0 est inférieur à K est inférieur ou égal à 1.
3. L'évapotranspiration réelle, ETR.
Le TR représente l'évapotranspiration d'un couvert végétal dans des conditions réelles données. En effet, comme c'est souvent le cas, l'alimentation en eau de la plante peut être limitée par des contraintes d'ordre physique, chimique ou biologique. Et l'on a alors une réduction de la consommation en eau par rapport à la valeur maximale qu'elle pourrait atteindre sans contrainte. On a alors ETR est inférieur ou égal à ET monsieur quant à la notion ETR optimum, elle est beaucoup plus difficile à approcher. Son intérêt se fait sentir lorsque l'on constate que l'optimum économique est atteint pour des valeurs de TR inférieures à ET monsieur soit parce que le rendement commercialisable maximal est atteint pour des valeurs de TR inférieures à ETM, soit parce que le supplément de rendement au voisinage de ETM est trop faible pour compenser le coût d'irrigation. On a ETR optimum est égal à K optimum multiplié par ETP en conclusion, on peut écrire ETR est inférieur ou égal à ETM est inférieur ou égal à ETP par ailleurs. Le rapport ETR sur ETP égal à K au stade est appelé indice de satisfaction de l'alimentation en eau des cultures. Plus cet indice est grand, moins les plantes souffrent de déficit hydrique. Chapitre 4. Facteurs liés au sol. Pour l'agriculture, il s'avère utile de comparer les sols cultivables selon des critères d'aptitude à recevoir, à emmagasiner et à mettre à disposition de la plante l'eau de pluie ou d'irrigation. N. Plus de son rôle dans l'alimentation minérale et de support pour la plante, le sol est un véritable réservoir qui joue un rôle important dans l'alimentation en eau de la plante. En effet, c'est au sol que la plante s'adresse pour maintenir ses cellules à l'état turgescent, donc à vie. Après une pluie, le sol fait ses réserves. On appelle réserve RU, la quantité d'eau contenue dans la tranche de sol explorée par les racines, entre le point de ressuyage, pour humidité équivalente, et le point de flétrissement, HF. RU est égal à D à multiplier par HCR moins HPF multiplié par Z. On appelle réserve facilement utilisable, RFU, la quantité d'eau emmagasinée dans les espaces libres ou macroporosité après imbibition de la structure, est égale à 1/2 ou 2/3 de la réserve utilisable, soit 1/4 à 1/3 de l'humidité équivalente. La capacité de rétention, RT, est la quantité d'eau emmagasinée dans la structure élémentaire du sol dès sa pénétration. Faible pour les sables, elle représente 2/3 de la réserve utilisable pour les argiles. La réserve utilisable, RU, est égale à RFU plus RT. Plus les pluies s'installent, plus RU tend vers sa valeur maximale, RMU, réserve maximale utilisable. RU est égale à 1/10 multiplié par HR moins HF multiplié par DA multiplié par H, en millimètres d'eau. HR est l'humidité du sol à la capacité au champ, HF est l'humidité du sol au point de flétrissement. DA est la densité apparente du sol, H est la profondeur explorée par les racines. Chapitre 5. Facteurs liés à la plante. L'eau est le constituant essentiel de la matière vivante. Les végétaux, qui en font une grande demande, sont constitués d'environ 95% d'eau. L'eau intervient dans la constitution de certaines structures, assurant à l'échelon cellulaire le maintien de ces structures et le déroulement du métabolisme. Elle intervient par la pression turgescente sur les membranes aux pores des végétaux. Elle sert de trait d'union entre les parties du végétal en assurant la circulation des substances nutritives, des déchets, des hormones et des éléments minéraux. Elle commande le mouvement des feuilles, des étamines et des stomates. 98% de l'eau absorbée par la plante est évaporée, et seulement 2% de l'eau utilisée représente l'eau de constitution. En plus de son rôle de véhicule des éléments nutritifs, l'eau assure une régulation thermique au niveau des feuilles. L'eau pénètre dans la plante par l'épiderme des racines et des poils absorbants, arrive aux feuilles où elle est éliminée par les mécanismes stomatiques. Chapitre 6. Propriété physique du sol. Inconstante physique du sol. A la coherence. Elle correspond à la propriété que possède la terre sèche et représente la résistance du sol à la pénétration des instruments de travail et à l'écrasement. Elle est liée à la présence de colloïdes. Les propriétés caractérisant cet état sont une résistance relativement élevée à la rupture, traduite par le fait qu'il faut appliquer une force considérable pour briser un élément de taille donnée. Une fois cette rupture obtenue, les éléments n'ont plus tendance à s'agglomérer les uns aux autres. À cet état, il n'y a pas d'adhérence ni aux outils, ni aux doigts. B. La plasticité. Elle traduit la propriété du sol de subir des déformations permanentes tout en gardant, après dessiccation, un état cohérent. Elle dépend des teneurs respectives en eau et en argile du sol. Pour une teneur en argile donnée et en partant de l'état cohérent, en ajoutant progressivement de l'eau, on atteint à un moment donné l'état plastique. Puis, à mesure que l'humidité croît, la terre se déforme pour une pression de plus en plus faible. Et en continuant d'accroître l'humidité, on obtient un état pseudo-liquide. On peut définir les limites de ces différents états. La limite inférieure de plasticité est caractérisée par l'humidité minimale pour laquelle on peut former un bâtonnet de 3 mm d'épaisseur dans les conditions standards. La limite supérieure de plasticité, ou limite de liquidité, correspond à l'état à partir duquel un sillon tracé dans la terre humide placé dans le fond d'une capsule s'efface après un certain nombre de chocs. La différence d'humidité entre la limite inférieure et la limite supérieure est l'indice de plasticité, qui permet d'apprécier la quantité d'eau que peut absorber un sol tout en restant plastique. C. L'adhérence ou adhésivité. Elle représente l'aptitude des sols à adhérer aux surfaces en contact. Ce sont les films d'eau entourant les particules de terre qui favorisent l'adhérence des fragments de terre les uns aux autres ou à un objet extérieur. 2. Le choix des états favorables aux différents travaux. Le comportement du sol aux diverses humidités permet de définir les conditions de travail du sol. La cohésion décroît assez rapidement lorsque l'humidité augmente. Au contraire, l'adhérence, très faible à l'état sec, augmente avec l'humidité, passe par un maximum, puis décroît à nouveau. Cette situation peut être schématisée par la figure ci-après. La courbe de frottement métal-sol suivrait à peu près la même allure que la courbe de l'adhérence. Alors, il résulte de ce diagramme que chaque fois que l'on veut briser des mottes et faire de la terre fine, il convient de choisir une humidité pour laquelle la cohésion soit nettement diminuée sans pour autant avoir une adhérence trop marquée. Zone A, zone de rupture, formation de terre fine. Si l'on veut faire un labour moulé, il faut choisir une humidité plus grande sans pour.